Je suis en train de reprendre certaines prédications d'il y a 8 à 10 jours pour lesquelles je n'avais pas fait d'enregistrement. Que Dieu bénisse les auditeurs. Je m'excuse, parfois je suis fatigué et distrait. Voici donc un thème, c'est l'écoute pure de la parole de Dieu. Parce que Dieu dit en présence de Élie et de Moïse, dit que Jésus est son fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Matthieu 17, verset 5. Oui, Dieu demande d'écouter Jésus. Il est nécessaire d'écouter Jésus. Mais est-ce que ce sera une écoute pure de notre part? Une écoute parfaite. Lorsque vous prenez des jeux d'enfants, vous mettez 5 groupes de 10 enfants, vous les espacez de 7-8 mètres, et puis vous mettez un message à l'oreille du premier, et vous dites de transmettre le message à voix basse au suivant, au second, jusqu'au dixième. Et si vous avez plusieurs groupes ainsi, et que vous allez au bout de chaque fil, récolter le message, vous trouvez que le message ne correspond plus à rien du tout. C'est ainsi que le christianisme d'aujourd'hui, la chrétienté d'aujourd'hui, souvent ne respecte pas le message. Il y a une cacophonie immense à travers toutes les émissions sur Internet, dans les églises, etc. Nous devons retourner à la parole, nous devons retourner à une écoute pure. Il y a bien sûr des frères et des sœurs, des chrétiens qui ont cette écoute et qui sont sans doute une minorité par rapport à un courant assez dévastateur qui modifie la parole de Dieu à son gré. Je me rappelle avoir été à une réunion d'église à Bruxelles. Je voulais faire partie de cette fédération baptiste et on m'a averti tout de suite que chaque église avait le droit d'interpréter la parole de Dieu comme elle le voulait. Ça veut dire que si notre église allait rencontrer d'autres de ces églises-là dans une réunion communautaire plus large, il rencontrerait des frères qui avaient une interprétation et un sens de la parole très différent, voire opposé. Et ils auraient pu rentrer à la maison en se disant « Mais Dieu a-t-il bien dit que ?» Lorsque j'ai pensé à cela, j'ai pensé à Satan qui a posé cette question à Adam et à Ève. « Dieu a-t-il bien dit que ?» à propos de l'arbre de vie et de l'arbre de la science du bien et du mal. La remise en question « Dieu a-t-il bien dit que ?» a commencé dès le départ. Et nous avons encore cette fichue manie de retomber dans le piège du malin, tout en se croyant chrétien. Donc il faut une écoute pure. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est l'écoute pure. Et donc, que dit Jean, chapitre 17, verset 17? Eh bien, c'est ceci, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc la parole est vérité. Et la vérité n'est qu'une. Il n'y en a pas d'autre. Et il faut faire attention, ce n'est pas... Pourquoi faut-il ajouter quelque chose? Pourquoi faut-il interpréter autrement? Regardons la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Chapitre 1. Verset 15. « J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Et voici donc un testament de la part de Pierre. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Bien sûr, sur le mont Hermon, Matthieu 17, mais aussi sur le mont Tabor, 1 Corinthiens 15, 1 à 6. En présence de 500 frères. Et donc, les sœurs. Et donc, pratiquement, Pierre insiste que c'est une expérience authentique, garantie par Dieu. Sur le mont Hermon, en présence de Moïse et d'Élie, qui se portent les garants, qui veulent venir et qui viennent attester que l'Ancien Testament se réalise en Christ. Et donc, ce n'est pas en effet, suivant des fables habilement conçues, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et rappelez-vous donc Matthieu 17, écoutez-le. Et Ésaïe 42, verset 1. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, venant de Dieu donc, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme un lieu, une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le lieu obscur, c'est l'être humain qui reçoit la lumière divine, la parole de Dieu. Mais méfions-nous de notre obscurité. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc l'expérience même de Dieu, de la révélation de Christ en nous, c'est ce que dit Paul dans Galates chapitre 2, « Dieu a révélé en moi son Fils bien-aimé ». Il y a donc une écoute et il y a une expérience de révélation de Jésus-Christ en moi, en ma personne. C'est simplement par l'effet de la parole, la création d'un lien éternel avec le Fils pour connaître le Père et aller au Père. C'est pour ça que la première épître de Jean dit « Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père, celui qui a le Fils a le Père ». Continuons dans la première épître, la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc vous voyez que les prophéties ont un sens spirituel, précis, ordonné et clair, unique. Et pourtant, au IIe siècle, Origène dit que les prophéties n'ont pas de contenu historique, de portée réelle, concrète. Et cela fait partie du dogme, j'ai été prêtre, et donc c'est quelque chose que j'ai étudié, ça fait partie du dogme de l'Église catholique. La prophétie n'a pas de contenu réel, elle est allégorique, symbolique. Et donc, vous voyez, on met en échec directement la parole de Dieu, et je vais dire les trois quarts de la Bible, de ce fait. Et de ce fait, on peut s'attendre à ce que le pape, les évêques, les conciles donnent une interprétation de la parole de Dieu, puisque, tout simplement, il n'y a pas de réalité, de portée véritable dans les prophéties. Vous voyez le transfuge de l'autorité, de ce qu'on appelle la tradition mater et magistrale de l'Église catholique. Vous avez cela aussi dans l'orthodoxie, et c'est un danger très grave. Bien sûr, il y a des chrétiens catholiques et orthodoxes qui sont en communion avec Christ, qui cherchent Christ de tout leur cœur. Pourquoi ? Par une révélation personnelle de Jésus dans leur vie, parce qu'ils ont une adhésion profonde à la parole de Dieu, plus qu'une adhésion à leurs dirigeants et au concile, mais au dogme ajouté à la parole. Il y a toujours des personnes pour résister, comme à l'époque d'Élie, il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genoux à l'époque d'Acap et de Jézabel. Eh bien, à l'époque d'Élie, nous sommes dans le même contexte, il y a des personnes qui savent s'attacher à la parole de Dieu et la considérer comme la vérité. Et Jean 17:17 est leur réalité. « Ma parole est la vérité ». Ma parole vous sanctifiera, ma vérité vous sanctifiera. Et donc, Jésus est le véritable et il n'y a rien d'autre en dehors de la personne de Christ qui est essentiel à la parole de Dieu. Jean 5, 39, toutes les Écritures rendent témoignage de moi. Alors, l'écoute pure peut-elle exister ? Regardons dans Jean chapitre 10, verset 4. Jean, chapitre 10, verset 4. Jean, chapitre 10, verset 4. C'est donc la parabole du bon berger. Au verset 4, « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. « Aujourd'hui, chers amis, comprenez-vous que Jésus veut que vous écoutiez sa parole et rien d'autre ? Ou êtes-vous dans le même cas encore que tous ceux-là qui entouraient Jésus, qui ne comprennent rien et qui acceptaient n'importe quoi, n'importe quel intervenant, apparemment prophétique, apparemment ayant une autorité spirituelle, qui ajoute, qui retranche à la parole de Dieu? De quel bord sommes-nous? Jean 8, verset 47. Jean 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors, allons un peu aussi dans un autre texte de Jean chapitre 8, au verset 25. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Donc ceux qui sont alentour de lui. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. » Pesez ces mots, vous allez vous rendre compte, « Ce que je vous dis dès le commencement. » Dès que Jésus a commencé à prêcher, à partir de son baptême, dans la synagogue de Nazareth, de Capernaum, etc., il a pris la parole, dès le commencement, c'est cela, c'est le commencement de son ministère public, « Ce que je vous dis. » La parole de Jésus, c'est Jésus. La parole de Jésus, c'est Jésus, parce que Jésus est totalement transparent, Jésus est pur et vrai et sans péché. Donc la parole est émise. L'émetteur parfait de la pensée de la parole divine, c'est le Christ Jésus. Donc lorsque nous voulons une écoute pure, attachons-nous simplement à Jésus-Christ. Non pas à nous-mêmes, non pas aux traditions, non pas à des pasteurs et des prêtres, mais à la parole de Dieu. Évidemment, il peut y avoir des serviteurs de Dieu qui apportent une parole pure, mais vérifiez toujours dans les Écritures. Ayez un esprit critique. Vous avez reçu un esprit pour pouvoir discerner et demander à Dieu de peser ce que vous entendez, de discerner le vrai du faux. Nous allons aller dans Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'esprit, c'est tout ce que nous possédons pour raisonner, pour réfléchir, pour choisir, pour exercer une certaine critique, pour faire des choix, pour réaliser l'appel de Dieu, pour savoir ce qu'il est. Cet esprit-là est, bien sûr, lorsqu'on est converti, dirigé par le Saint-Esprit. L'Esprit, à lui seul, ne peut pas connaître Dieu. Mais regardez bien ce que dit Jésus. L'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité. Donc, dans la parole. Par la parole. Il n'y a pas d'adoration sans la parole. Il n'y a pas de prière sans l'authentique parole de Christ. Les paroles émotionnelles, les paroles exaltées de certains courants chrétiens, ou les paroles rigides, psychorigides, figées dans des livres par certaines églises, ne correspondent pas à cela. Regardez plus loin. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Nous devons absolument prendre notre responsabilité spirituelle en main, en esprit. En esprit, nous devons peser ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous devons nous attacher à la vérité. Et il est donc nécessaire d'être responsable de nos raisonnements, de nos choix, de nos décisions, et avoir ce qu'on appelle un vrai libre arbitre. Et faire un examen de conscience lorsque nous avons compris quelque chose, pour savoir si nous avons été honnêtes ou pas vis-à-vis de la parole de Dieu. Le libre arbitre sans examen de conscience me semble dangereux. Il faut toujours, toujours faire un retour sur nous-mêmes pour peser si nous avons été intègres. Dans Jean 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc Jésus dit bien que sa nourriture, ce qui le fait vivre, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Et son œuvre, c'est la parole. Son œuvre, c'est l'expression même divine, le dabar, dans l'Ancien Testament, le Logos dans le Nouveau Testament, la parole divine. La parole divine est la mission de Christ. Et Christ est la parole divine. Alors, regardons dans Jean chapitre 3, verset 34. Jean chapitre 3, verset 34. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne donne, lui donne pas l'Esprit avec mesure. Lui donne pas l'Esprit Saint avec mesure. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc nous voyons clairement que Dieu a donné en plénitude l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité à Christ. Et que cet Esprit de vérité peut nous parler, nous enseigner aujourd'hui, et nous rappeler et nous faire comprendre tout ce que Jésus a dit. C'est ainsi que vous avez dans Jean 14 et Jean chapitre 16, cette annonce de Jésus qui est solennelle, que le Saint-Esprit nous enseignera déjà tout ce que Jésus avait enseigné, qu'il annoncera la vérité. L'Esprit-Saint ne va pas sans le Christ et le respect de sa parole. J'ai rencontré des situations invraisemblables où des gens me disaient « L'Esprit m'a dit que, l'Esprit m'a soufflé que. » Et ça ne correspond en rien à la parole de Dieu ni à Christ. C'était simplement une autosuggestion, un délire maniaque qui était dangereux. Regardons dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Verset 24. Amen, amen. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Donc la parole, nous, opère en nous un transport d'une situation à l'autre. Il est passé de la mort à la vie. D'une situation de séparation avec Dieu, de mort, à une situation de contact, de relation éternel avec Dieu, donc de vie. C'est ainsi que Jésus-Christ est la vie éternelle pour nous. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Donc n'oubliez pas ce verset de Jean chapitre 5, verset 24. Au verset 25, en vérité, donc amen, amen, c'est une déclaration solennelle, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, donc tous les gens qui marchent sur la rue, qui conduisent des voitures, qui travaillent, qui vont dans les champs, qui vont dans l'industrie, qui vont à l'école, sont des morts. Au point de départ, à leur naissance, ils sont séparés de Dieu, depuis le péché d'Adam et Ève, et aussi parce qu'ils y participent allègrement, souvent, ou inconsciemment. Et ces morts, s'ils entendent l'Évangile et qu'ils adhèrent à la parole de Christ, ces morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Chers amis, nous voyons que la parole est le canal sacré du salut, et que Jésus est ce canal sacré. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nous allons aller dans 8, 43, Jean 8, 43 et 44. Voici ce que Jésus dit aux responsables religieux, sadducéens, pharisiens, enfin, pas tous sont à mettre dans le même sac, mais une majorité en tout cas était clairement opposée à Jésus, clairement hostile, et c'est eux qui ont décidé un jour de sa mort. Mais voici ce qu'il leur dit. Jean 8, 43. « Ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole ?» Donc ils n'ont pas en eux la capacité et la puissance d'écouter la parole. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Chers amis, à vous de savoir, en fonction de ce verset, quel est votre père? Quel est votre guide? Quel est votre maître de pensée? Nous allons maintenant dans Jean, chapitre 12, verset 48. Celui qui me rejette, Jean 12, 48, celui qui me rejette, qui ne ressemble pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc nous faisons nous-mêmes notre choix, nous faisons l'aiguillage vers la vie ou la mort, n'est-ce pas, vers la vie éternelle ou la séparation éternelle, par notre attitude vis-à-vis de la parole divine, la parole de Jésus. Et cette parole est le révélateur de ce que nous sommes, de la nature profonde de nos décisions. Au verset 49, Jean 12, 49, « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Prenons Deutéronome 18. Deutéronome 18. Suite à ce que vous venez d'entendre et de lire, il est nécessaire de se référer à une annonce 15 siècles avant, 14 siècles avant, de Moïse. Deutéronome 18, verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. » Donc, Moïse parle à Israël. « D'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Vous l'écouterez. Rappelez-vous, Matthieu 17, écoutez-le. Alors, plus loin, je vous lis les versets 18 et 19. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères, c'est Dieu qui le dit, un prophète comme toi, comme Moïse, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Donc, vous voyez, à partir de Deutéronome 18, verset 19, vous comprenez mieux ce verset de Jean 12, verset 48. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qu'il jugera au dernier jour. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle, c'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. » Comprenez bien que lors de la transfiguration sur le mont Hermon, Matthieu 17, la présence d'Élie et de Moïse, les deux plus grands prophètes de l'Ancien Testament, sont des garants, sont l'expression même que l'Ancien Testament authentifie le porte-parole divin qu'est Jésus-Christ, le Logos divin incarné en Jésus de Nazareth. Prenons maintenant Jean, chapitre 14, verset 26. « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Toutes choses, c'est-à-dire tout ce que Dieu veut dire. Rien de plus et de moins. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire il fera référence directement au témoignage évangélique des apôtres, le collège apostolique, les 12 apôtres, à la parole de Jésus dans les évangiles. Dans Jean chapitre 16, verset 19, « Le Consolateur sera venu, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, nous voyons bien qu'aujourd'hui, le temps de la parole, dans, bien sûr, la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie dans le Saint-Esprit, pour ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu est source de salut et source de sanctification. Et donc, chers amis, faisons attention. Il ne faut pas se laisser séduire par toutes sortes de choses mauvaises qui peuvent venir. Lisons l'Apocalypse 22, versets 18 à 19. Apocalypse 22, versets 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc il subira, il restera dans la période de tribulation avec l'Antichrist. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc pas de salut pour celui qui retranche quelque chose à la parole de Dieu. Ceci est quand même une conclusion solennelle, incisive, qui est comme une épée qui rentre dans la jointure de nos os pour savoir est-ce que nous sommes honnêtes à ce point-là vis-à-vis de la parole de Dieu. Prenons le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux, donc c'est une prophétie. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc il y a un épanouissement spirituel garanti et promis, donné pour celui qui s'alimente à la parole de Dieu jour et nuit. N'est-ce pas ? Psaume 1, verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Chers amis, vous trouvez la même affirmation dans Jérémie 17, verset 15. Et regardons maintenant dans Job, au chapitre 36, verset 22. 21 siècles avant Jésus. Job 36, verset 22. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire tu fais mal? Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable, etc. Et il y a, bien sûr, une affirmation dans le verset 22, qui saurait enseigner comme lui? Seul Dieu enseigne. Seul Dieu enseigne. Donc aujourd'hui, comme au début du 1er siècle, si nous prenons la deuxième épître aux Corinthiens, nous pouvons comprendre que l'ennemi s'est toujours introduit pour fausser la parole de Dieu. Fausser, non pas la parole de Dieu, mais fausser l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui que le thème, c'était l'écoute pure de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas être déformée, mais l'écoute peut être déformée. Rappelez-vous ce jeu que j'ai fait souvent avec des enfants, des groupes, avec un petit message confidentiel à l'oreille, et quand il arrive au bout de la chaîne, c'est nul. Alors, faisons attention à nous. 2 Corinthiens 11, n'écoutons pas ce qu'on nous raconte à la parole de Dieu, allons directement à la parole de Dieu, pour vérifier ce que nous avons entendu. 2 Corinthiens 11, verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisez Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Simplicité. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous imaginez ? Cela, nous sommes dans les années 55, 25 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Alors, un peu plus bas, dans 2 Corinthiens 11, verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Chers amis, je vous demande d'avoir une écoute pure et de transmettre de façon pure la parole de Dieu. C'est votre devoir, c'est votre mission. Gloire à Dieu. Et que vous soyez nobles dans vos pensées, nobles dans vos paroles, pour être de véritables enfants de Dieu.